dernier livre de la Bible, l'Épître de Jude. Donc, J.L. a bien sûr plaisanté en disant que c'était un des plus grands livres de la Bible, parce que c'est un des plus courts. Il y a 15 jours, nous avons commencé à regarder cet Épître, écrit par un certain Jude, et j'ai expliqué qu'il y a 5 livres dans la Bible qui n'ont qu'un chapitre, 1 dans l'Ancien Testament et 4 dans le Nouveau. Abdias dans l'Ancien, et dans le Nouveau, il y a 2 Jean, 3 Jean, Jude, et l'autre c'est Philémon. Voilà, Philémon. Alors donc, nous avons regardé les 7 premiers versets là, il y a 15 jours. On va regarder les versets suivants aujourd'hui et on va terminer l'Épître dans 2 semaines. Mais je vais lire depuis le début de l'Épître pour que chacun puisse avoir vraiment le contexte de ce que nous allons faire. Jude, donc, je lis à partir du premier verset. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et ils renient Dieu, le seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont données en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leur rêverie, ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit « Que le Seigneur te punisse ». Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct, comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau, emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur propre nature et n'ont pas l'esprit. Voilà, nous allons nous arrêter là. On prendra les derniers versets, Dieu voulant, dans 15 jours. Alors, je voulais juste vous rappeler que dans les 7 premiers versets, il y a 15 jours, nous avons parlé un peu de Jude qui s'est présenté et j'ai expliqué qu'il y a plusieurs triades dans cet épître. Jude se présente, il donne son prénom, sa position et sa parenté. Trois choses. Ensuite, il y a une deuxième triade. Trois choses vraies au sujet de chaque chrétien. Les chrétiens sont appelés, ils sont aimés, ils sont gardés. Vous pouvez toujours écouter ce message sur Internet ou si vous voulez, je peux vous envoyer mes notes. Troisième triade, trois cadeaux que Dieu donne à chaque chrétien. La compassion, la paix, l'amour. Quatrième triade, ceux qui troublaient les chrétiens au premier siècle, ils rejetaient la grâce de Dieu, ils rejetaient la seigneurie de Dieu, la puissance de Dieu, et ils rejetaient aussi la personne de Jésus-Christ. Cinquième triade, Jude fait appel à ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple de Dieu. Il parle de ce qui s'est passé pendant l'Exode, il parle de la chute des anges avec Lucifer, et il parle du jugement de Sodome, de Gomorre et des villes environnantes. Jude explique, et nous l'avons lu, il voulait écrire une lettre au sujet du salut. Mais à cause des circonstances, à cause de l'actualité, il était presque obligé d'écrire un autre genre de lettre pour mettre en garde les chrétiens contre ce qui peut troubler l'Église, ce qui attaque l'enseignement biblique, ce qui met en doute la doctrine de la foi. Et Jude, donc, à partir du verset 8, il continue à parler de ceux qui sèment le trouble dans les églises et il donne une petite description de ces gens-là, versets 8, 9 et 10. Jude parle de ces gens en disant, mais voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils font, voilà ce à quoi ils pensent, voilà ce qu'ils veulent et voilà ce dont ils rêvent. Et il dit, mais ces gens-là sont des rêveurs. Ils vivent sur terre, mais parfois leur esprit est ailleurs. Il dit aussi que ces gens-là qui troublent les chrétiens sont des rebelles. Ils rejettent la parole de Dieu. Et aussi, il dit, ils sont des rouspéteurs. Ils n'arrêtent pas de rouspéter. Ils sont contre tout. Ils déshonorent leur corps, ils insultent le Seigneur. Bref, ils n'ont rien des chrétiens. D'ailleurs, au verset 19, il dit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tout chrétien a l'esprit, tout non chrétien n'a pas l'esprit. Donc c'est clair pour Jude, ces gens-là sèment le trouble et ça ne va pas. Soyez prêts, soyez avertis. Et ce qui est dit pour les chrétiens du 1er siècle est aussi vrai pour les chrétiens du 21e siècle. Ensuite, au verset 11, il y a une sixième triade, donc un trio de trois choses que Jude veut souligner. Alors, Jude fait appel à l'histoire de nouveau. Au verset 5, 6 et 7, Jude évoque des exemples historiques et bibliques dans l'histoire du peuple d'Israël. Et ici, de nouveau, il fait appel à l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paul nous dit dans Romains 15, verset 4, « Ce qui a été écrit avant est pour notre instruction. » C'est-à-dire, regardez l'histoire, et apprenez de l'histoire. Le philosophe Hegel a dit, l'histoire nous apprend une chose, c'est que l'histoire ne nous apprend rien. C'est-à-dire, on fait les mêmes bêtises que dans l'histoire. Et quand on regarde l'histoire des guerres, on voit souvent les mêmes stratégies, les mêmes bêtises, les mêmes défaites, parce que les gens ne regardent pas l'histoire. Et Jude veut que les chrétiens du 1er siècle connaissent l'Ancien Testament. Et je suis sûr que si Jude était là, il vous dirait aussi, est-ce que vous connaissez l'Ancien Testament? Parce que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction. C'est le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, qui a écrit dans un de ses livres, « Ignorer son passé, c'est s'exposer à le revivre. » Et Jude voulait que les gens sachent, mais dans le passé, il y a eu des précédents historiques et il faut connaître le passé. Bien sûr, il faut éviter de vivre constamment dans le passé. En vieillissant, on a parlé des aînés. J.R. ne m'a pas cité parmi les aînés, mais je ne suis pas encore parmi les aînés. Mais en vieillissant, on a toujours tendance à penser au passé. Et le danger, c'est de vouloir faire revivre le passé en disant, bah, c'était toujours mieux d'antan. Alors parfois, c'est vrai, c'était mieux d'antan. Mais parfois, c'est faux, c'était pas mieux d'antan. Eh bien, Alexandre Solzhenitsyn, si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous expliquer qui c'était, qui est mort maintenant, il a dit ceci, vivre dans le passé, donc vivre constamment dans le passé, vous allez perdre un œil. Oubliez le passé, vous allez perdre les deux yeux. Intéressant. Vivre constamment dans le passé, ça ne va pas. En tout cas, Jude parle du passé pour dire, mais voilà ce qui s'est passé, réfléchissez et apprenez-en. Donc il donne trois exemples. L'exemple de Caïn, Genèse 4, l'exemple de Balaam dans le livre des Nombres, et l'exemple de Corée dans le livre de Nombres également. Alors, Caïn, il était coupable d'avoir rejeté le salut par le sang versé. Son frère Abel a tué un agneau. Son culte était accepté par Dieu. Caïn ne voulait pas de sang. Il a offert autre chose à Dieu et son sacrifice a été rejeté par le Seigneur. Il était coupable d'avoir rejeté le salut par le sang. Ensuite, Balaam, son péché, c'est qu'il voulait devenir riche, hyper riche, grâce à la religion. Ça, c'est un péché grave. Corée, eh bien, lui, il s'est rebellé contre le leader que Dieu avait mis en place, à savoir Moïse. Et nous lisons de façon très pittoresque dans Nombre 16 que la terre s'est ouverte, il a englouti Corée et toute sa bande, et puis la terre s'est refaite. Donc, les gens qui troublaient les chrétiens au premier siècle ressemblaient à Caïn, à Balaam et à Corée. Parlons d'aujourd'hui. Caïn, on trouve la même chose au XXIe siècle. C'est-à-dire, le péché de Caïn, il a dit non au sacrifice par le sang. Dans le dernier chant, on a chanté plusieurs fois au sujet du sang de Jésus qui nous sauve, qui nous pardonne. Au fait que la mort de Jésus, il a été tué à notre place. La Bible l'enseigne du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ah non, il ne faut pas parler du sacrifice expiatoire de Jésus. Il ne faut pas dire que Jésus a été puni à notre place. Ça, il ne faut pas dire ça parce que ça ne plaît pas aux gens du XXIe siècle. Ces théories ont commencé en Angleterre avec un pasteur très célèbre. Ça a passé aux États-Unis et selon le président du Conseil national des Églises de France, qui était orateur au congrès KF il y a un mois, il a dit « Ces idées vont bientôt arriver en France. Il ne faut pas parler du sang. C'est trop sanglant. Ça ne plaît pas à nos contemporains. » Connaissez-vous Hébreux 9, 22 ? « Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. » Le péché de Balaam, l'amour de l'argent. L'argent n'est pas un problème, l'amour n'est pas un problème, mais l'amour de l'argent, c'est ça qui est un problème. Il voulait devenir riche grâce à la religion. Et aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en refaire un dessin, mais il y a des gens qui deviennent riches grâce à la religion, grâce à des soi-disant miracles. Et ça a commencé aux États-Unis, c'est arrivé en Grande-Bretagne, et en France, et à Lyon. Il y a des gens qui prêchent ce message. Et nous devons être prévenus, avertis. Et Corée, son problème était une question d'autorité. Il a rejeté le leadership de Moïse. Vous vous rendez compte? Moïse, Aaron, établi par Dieu, et Corée a dit, moi je vais être chef. Eh bien, il y a eu un reportage aux infos de France 2, c'était le lundi de la Pentecôte, au sujet des églises évangéliques en France. Et ils ont cité un chiffre qui est donné par le Conseil national des évangéliques qui disent il y a une nouvelle église évangélique en France tous les 10 jours. Alors, c'est une statistique que je ne peux pas prouver, mais je sais que très souvent, quand il y a une nouvelle église évangélique qui naît, souvent, pas toujours, c'est parce que les gens ont quitté une église existante parce qu'ils se révoltaient, se rebellaient contre l'autorité en place. Donc, ils commencent leur groupe. Mais quelques années plus tard, dans leur groupe, il y a des gens qui vont partir pour fonder une nouvelle église parce qu'ils vont se révolter contre l'autorité en place. Je l'ai vu. Et malheureusement, on va les revoir. Donc, la question c'est, Dieu met l'autorité en place et nous devons nous soumettre aux autorités, que ce soit politique, que ce soit spirituel. Un autre sujet brûlant qui commence aussi à infecter le monde évangélique, le monde chrétien en France, c'est la doctrine de ce qu'on appelle l'inhérence des Écritures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, la Bible, c'est bien, mais il y a tellement de fautes, tellement d'erreurs, que tu sais, bon, il faut arracher quelques pages, et là, on aura une bonne Bible parfaite. » À la soirée de Pulse pour les jeunes, dans le nord de la France, il y a 3 mois, un des orateurs invités devant 300 jeunes du Nord-Pas-de-Calais a commencé à parler du fait que, oui, vous savez, vous avez la Bible, lisez la Bible, mais ne croyez pas tout. Il y a des erreurs. Alors, quelques responsables du groupe de jeunes que je connais sont allés voir cette personne pour dire, est-ce que tu as vraiment dit il y a des erreurs dans la Bible? Et cet homme, ah oui, il y a des erreurs, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit quand on lit la Bible. Attention, si on dit qu'il y a des erreurs dans la Bible, où est-ce qu'on va s'arrêter? Donc, des gens qui troublent l'Église au 1er siècle, des gens qui troublent l'Église au 21e siècle. Et à tous ces gens-là, Jude ne mâche pas ses mots, il ne passe pas par 4 chemins pour aller droit au but, il dit « malheur à eux ». Ce terme « malheur à » se trouve surtout dans les écrits prophétiques de l'Ancien Testament, où le prophète fait une liste des choses qui se font, des gens qui font des choses mauvaises aux yeux de Dieu, et le prophète dit « malheur à eux ». Il y a Ésaïe qui parle ainsi, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos, Michée, Sophonie, Zacharie. Il y a Jésus dans les évangiles qui parle des gens religieux, qui dit « malheur à eux » en parlant des chefs religieux de son époque. Et le tout premier à dire « malheur à quelqu'un », c'était Salomon, qui n'était pas un prophète, et qui a dit plus ou moins « malheur à nous si nous nous détournons du Dieu vivant et vrai ». Ensuite, Jude continue à donner une description de ces gens-là. Il utilise 5 images au verset 12 et 13. On va ces images pour montrer que ces gens-là qui troublent les chrétiens ne sont pas du tout intéressants. Il dit que ce sont soit le mot c'est taches dans vos repas ou des écueils, c'est-à-dire des rochers à fleurs d'eau qui sont très dangereux pour les marins. Deuxième image, ce sont des nuages sans eau. Il paraît qu'il a plu hier soir. Il y avait des nuages. Est-ce qu'il y avait de l'eau dans les nuages? À quoi sert un nuage sans eau? D'ailleurs, sans être scientifique, est-ce qu'un nuage sans eau existe? Bon, c'est pour dire que ces gens-là n'ont aucune valeur. Ensuite, ce sont des arbres fruitiers sans fruits. Il dit déjà, 2 fois morts et déracinés. Encore, à quoi sert un arbre fruitier sans fruits? Ensuite, il parle du fait que ces gens-là ressemblent à des saletés laissées sur la plage avec la marée descendante. L'écume, les saletés, les morceaux de trucs qui sont cassés, qui arrivent et qui sont laissés sur la plage. Alfred Kuhn traduit ce texte en disant « Ils rejettent l'écume de leurs propres impuretés ». Il y a quelques semaines, nous étions à la plage, la mer du Nord, et sur le, je ne vais pas dire dans quelle ville, mais sur la plage, il y avait toutes sortes, on aurait dit de la mousse, mais c'était moche comme tout. Et je me suis dit, bah, c'était au mois de janvier, donc jamais je vais me baigner dans cette mer, parce que c'était tellement sale. Et Dieu dit, mais ces gens-là, ils laissent des saletés partout. D'ailleurs, il y a quelques années, mon frère, quand il avait près de 12-13 ans, promenait notre chien sur la plage. On habitait aussi sur la côte à l'époque. Et il voit quelque chose dans la mer, presque sur la plage, et il s'approche. Et c'était le cadavre d'une femme qui s'était suicidée un peu plus haut. Et 2 jours plus tard, le cadavre est arrivé sur notre plage, enfin notre plage, sur la plage de la ville où on habitait. Il dit, mais ces gens-là sont comme ça. Rien de valeur, rien d'intéressant. Et puis il dit aussi, ce sont des étoiles errantes, des étoiles filantes. Alors une étoile, ça donne la lumière. Mais une étoile errante, une étoile filante, enfin, à nos yeux, ça passe tellement vite. Et puis c'est parti. Tout ça pour dire, mais ces gens-là ne sont pas intéressants. Du tout. Au premier siècle, c'était le cas. Et à notre époque, c'est aussi le cas. Donc il dit que l'avenir de ces semeurs de troubles, eh bien, c'est le jugement. Ils vont être jugés. Et leur jugement sera personnel, solennel, universel, éternel. Et il fait allusion à Enoch, le septième d'Adam. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Enoch, le septième d'Adam? Eh bien, c'est parce qu'il y avait aussi un Enoch dans la famille de Caïn, qui n'était pas un homme de Dieu comme Enoch, qui marcha avec Dieu et qui ne fut plus. Il est monté auprès du Seigneur sans passer par la mort à l'âge de 365. En tout cas, Enoch avait dit, ces gens-là seront punis. Le jugement va venir sur eux. Et Dieu sera contre tous les impies. Et tous auront des comptes à rendre envers le Seigneur. C'est encore un thème qu'on trouve du début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Acte 17, 31, Paul dit à Athènes, dans une réunion publique, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a plein d'exemples de jugements ponctuels. Des gens qui ont été frappés par la lèpre, une reine méchante jetée par la fenêtre et mangée par les chiens. La grêle qui tombe du ciel, quelqu'un qui a menti au sujet de la collecte de son église, qui était foudroyé par Dieu devant les frères et sœurs. J'ai jamais vu ça dans nos églises évangéliques, mais ça s'est passé au premier siècle. Quelqu'un frappé par la cécité, par une maladie terrible de pieds. Il y a eu des famines, des sécheresses, etc. Des moments où Dieu a jugé des individus, des familles, des nations entières. Et ce sont des choses pour nous montrer qu'un jour futur, ce sera quelque chose de vraiment terrible. Je continue. Et je vais bientôt conclure. Il donne encore une troisième description de ces gens-là qui posent des problèmes, qui ressemblent un peu à la première. Ils sont des râleurs, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, égoïstes, ils sont ingrats, toujours mécontents. Tout à l'heure, on a chanté « Merci d'un cœur toujours mécontent, reconnaissant ». Et nous devons avoir un cœur reconnaissant. Mais ces gens-là sont toujours en train de râler. Et ils sont des menteurs. Ils n'ont rien de chrétien. Alors, après vous avoir déprimé avec tout ça, comment faire pour conclure? Eh bien, 2 petits mots qui vont apparaître. Quant à nous, Jude dit, verset 17, quant à vous. Alors, quant à nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord se souvenir. Ces choses-là ont été écrites. Ces choses-là ont été prédites. Les apôtres les ont déjà écrites et prédites. Et l'Ancien Testament prédit que les choses vont se passer ainsi. Que des gens seront de plus en plus charnels, impies, menteurs, moqueurs, rebelles. Si on vous dit que le monde va aller de mieux en mieux, eh bien, lisez le Nouveau Testament. Matthieu 24, Marc 13, Acte 20, 2 Thessaloniciens 2, 1 Timothée 4, 2 Timothée 3, 2 Pierre 2, 2 Pierre 3, 1 Jean 2, Et puis je pourrais continuer. Le monde va mal et nous devons nous rappeler, mais cela est écrit. Mais nous devons nous rappeler aussi que malgré ça, Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Dieu parle. Et il fait plein de choses qu'on ne voit pas à la télé, qu'on ne voit pas dans toutes les revues chrétiennes, mais Dieu est à l'œuvre. Et on doit se souvenir que Dieu a promis, ça va mal aller, mais Dieu a promis, je serai toujours là, en train d'œuvrer. Et la deuxième chose qu'il nous dit, eh bien, on doit se réjouir. On doit se réjouir. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que, ah ben, c'est pas lui qui dit trop, c'est plutôt moi qui le dis. On doit se réjouir parce que, avec le premier verset, je reviens, nous avons été appelés, nous sommes aimés, et Dieu promet de nous garder. Nous devons nous réjouir dans le salut que nous avons, dans la sécurité que nous avons, et nous devons nous réjouir aussi de savoir que notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Il règne, comme dit le vieux cantique. Et nous devons nous réjouir que, malgré tout ce qui se passe, Dieu est maître. Dieu est souverain. Dieu reste le Tout-Puissant. Alors, souvenons-nous de ce qui a été écrit pour notre instruction et réjouissons-nous parce que nous sommes sains et saufs dans la main de Dieu. Personne ne pourra vous ravir de ma main. Jean 10, 27, 28. Alors, réjouissons-nous de ce que nous savons et ne craignons pas parce que celui qui est en nous est infiniment plus fort que celui qui est dans le monde. Amen.